Bonjour et bienvenue dans le podcast de Christelle. Christelle, c'est moi, je suis coach et ici on se parle de maternité et d'entrepreneuriat, les deux grandes thématiques qui m'animent au quotidien. Si ces sujets vous parlent, alors bienvenue et si vous voulez soutenir ce podcast pour lui donner une belle visibilité, vous pouvez bien sûr lui mettre des étoiles, des commentaires sur votre appli d'écoute préférée, mais surtout, surtout, le partager à vos amis. Allez, c'est parti pour notre épisode. Hola, hola, je me réjouis de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre podcast et cette semaine, on va se parler d'un sujet qui vous tient probablement à cœur, qui va sûrement vous parler, celui de l'endormissement. C'est un sujet qui revient chaque semaine en fait dans les questions que vous me posez sur Instagram. Vous savez que chaque mardi, je mets une petite boîte à questions dans laquelle vous pouvez me partager vos questions, vos préoccupations du moment. Et souvent, je vais faire un épisode de podcast autour des sujets qui reviennent le plus. Donc, celui de l'endormissement est un grand classique, évidemment. Et d'ailleurs, ce que je trouve hyper intéressant à observer et qui peut nous donner une forme de perspective, alors qui est pas forcément réjouissante quand on le prend comme ça de prime abord, mais vous allez voir qu'au fil de cet épisode, j'espère qu'on va un petit peu changer de regard sur l'endormissement de nos enfants. C'est pas une problématique, entre guillemets, qui ne concerne que les très très jeunes enfants. En fait, ça concerne aussi des enfants plus grands, de 6 ans, 9 ans, qui continuent en fait à avoir des difficultés à aller se coucher et à s'endormir seuls finalement. Et on va voir très rapidement ce que pour moi ça signifie. Et ce que je peux vous en dire et à travers ce que je vais appeler justement une routine rituelle, ce dont on va se parler vraiment expressément dans cet épisode, parce qu'il peut y avoir plein d'autres choses autour de l'endormissement, mais là on va se parler de la routine rituelle du soir. On va voir comment on peut les aider, comment on peut les accompagner, et puis aussi comment nous on peut s'aider, parce que c'est pas simple en tant que parents quand nos enfants ont du mal à aller se coucher, se relèvent tout le temps, c'est vraiment pas hyper agréable quand on a du mal à trouver les pistes en fait pour les apaiser dans ce moment-là, cette étape-là de la journée. Donc c'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il y a des notes de podcast qui sont disponibles sur le site christellecardor.com dans la rubrique blog. Et on vous a préparé avec Angèle un poster de la routine rituelle à télécharger. Je vais vous expliquer pourquoi j'explique ça. J'appelle ça une routine rituelle. Ça a un sens en fait pour moi d'accoler ces deux mots, je vais vous expliquer ça assez rapidement. Et donc ce poster en fait, vous allez avoir d'un côté un poster pour votre enfant à télécharger, que vous allez pouvoir imprimer en format A4 ou même A3 si vous avez envie. Donc un petit poster avec toutes les petites étapes, je prends mon goûter, je fais mes devoirs si j'en ai, je me lave, je mets mon pyjama, etc. Et on a pensé aussi aux parents, bien sûr, un petit poster, une petite affiche qui vient reprendre les points qu'on va aborder dans cet épisode pour que vous puissiez les avoir bien en tête si vous en avez, si ça vous aura parlé, si vous avez envie de l'explorer chez vous, d'essayer de tester en fait ce que je vous propose dans cet épisode. Donc ça, c'est à télécharger sur les notes de podcast et je le mettrai aussi sur Instagram, évidemment, je vous le partagerai toute cette semaine sur Instagram. Donc, en ce qui concerne le sommeil des enfants, comme celui des adultes d'ailleurs, il y a bien sûr un ensemble d'éléments qui vont jouer. Avant qu'on rentre vraiment dans le sujet de la routine rituelle, on va venir baliser un petit peu les autres choses qui peuvent venir impacter notre sommeil, dont on va pas vraiment se parler aujourd'hui, même si je vais faire des petites accroches autour de ça au fur et à mesure qu'on va se parler de la routine rituelle, puisque c'est des choses qui peuvent intervenir dans cette routine rituelle, mais c'est des éléments que je vais pas aller vraiment approfondir dans cet épisode-là. Donc il y a par exemple l'alimentation, qui peut venir impacter, si on mange évidemment trop de sucre ou qu'on mange des choses trop lourdes et un peu indigestes le soir, c'est plus compliqué de s'endormir, mais de manière plus générale, l'alimentation va avoir un impact en fait sur notre niveau de stress, notre niveau de fatigue, etc. Donc ça, c'est pas ma spécialité et du coup, je ne ferai pas d'épisode a priori sur ce sujet spécifique. On pourrait se tourner vers des naturopathes, vers des nutritionnistes spécialisés dans l'enfance et dans l'accompagnement des enfants. Moi, c'est pas ma spécialité, mais sachez que évidemment, l'alimentation peut avoir un impact sur la qualité de sommeil et la qualité d'endormissement de nos enfants, comme pour nous d'ailleurs. Il y a aussi les stimulations de la journée, et ça on va s'en parler un petit peu dans la routine rituelle, parce qu'on va mettre des choses en place dans la routine rituelle qui vont être en lien avec ça. Il y a aussi l'environnement et l'espace de sommeil, on va s'en parler aussi un petit peu dans la routine rituelle, même si là encore ça va pas être des sujets qu'on va vraiment développer, ça mériterait d'être développé davantage, peut-être on fera des épisodes plus tard dessus si ça vous intéresse, mais voilà, je viens un petit peu border toutes les choses qui peuvent impacter la qualité de sommeil, et ça en fait partie aussi. Et puis il y a de toute façon l'âge de nos enfants, hein. Il y a un âge où les enfants sont tout simplement pas prêts à s'endormir en autonomie. Et puis il y a aussi, hyper hyper important, les préoccupations du moment à l'école, dans la famille peut-être élargie, dans leurs activités, leur vie intérieure, etc. Donc bien sûr, avant de simplement essayer d'accompagner notre enfant sur tout ce qu'on va se parler là avec cette routine rituelle, c'est important de venir checker qu'en fait votre enfant n'a pas un souci entre guillemets d'endormissement, tout simplement parce qu'il est préoccupé par des choses à l'école, dans sa vie avec ses amis, dans ses activités, etc. On va s'en parler aussi bien sûr tout au long de l'épisode. Avant qu'on entame vraiment la routine rituelle, puis tout ça pour moi c'est en lien en fait, hein, évidemment, on peut essayer de réfléchir à quelque chose que moi je trouve intéressant à observer et que parfois on n'a pas forcément en tête ou en conscience vraiment parce qu'on est un petit peu, faut se le dire, le nez dans le guidon sur nos journées, sur voilà tout ce qui fait notre quotidien de parents. Mais en fait si on y pense, nos enfants, ils sont rarement seuls dans leur journée. Quand ils vont se lever, ils vont rapidement venir prendre leur petit déjeuner, passer un temps voilà en famille où on se prépare, où on est un petit peu dans beaucoup de stimulation aussi parce que on veut être prêt assez vite pour pouvoir aller à l'école, pas être en retard. Et puis après, ils vont être en collectivité tout au long de la journée, que ce soit en crèche, que ce soit à l'école maternelle, en élémentaire, etc., ou chez une nounou. Et puis ensuite, peut-être ils vont avoir leurs activités, si ils sont en âge d'avoir des activités extrascolaires, et ou le temps en famille, du soir ou de fin d'après-midi, soir. Et enfin, finalement, à la toute fin de la journée, après tout ce temps où ils sont finalement jamais seuls, en tout cas physiquement seuls, peut-être à certains moments ils se sentent seuls, mais ils sont pas vraiment physiquement seuls, et bien finalement ils vont avoir un temps où ils vont être isolés parce qu'ils doivent aller se coucher seuls dans leur chambre. Et le fait de se trouver isolé seul dans sa chambre, surtout au terme d'une journée où on a été en collectivité ou en tout cas entouré toute la journée, ça peut générer une forme de léger stress chez nos enfants. Un léger stress ou un stress qui peut être un petit peu plus fort et qui peut être conscient ou inconscient. Par exemple, moi je sais que l'un de mes fils, il me dit exprès et de manière très explicite, « Maman, j'ai pas envie d'aller me coucher parce que j'ai pas envie d'être tout seul dans ma chambre. » Et c'est important pour, je trouve déjà pour moi et pour nous, quand on commence à se questionner sur l'endormissement de nos enfants, d'avoir en tête cette réalité qu'en fait nos enfants sont rarement seuls, qu'ils ont rarement été seuls en dehors du temps d'endormissement, et que du coup c'est vraiment un moment spécifique pour eux du temps d'endormissement seul. Et ça vient nous, ça doit venir nous questionner sur comment vraiment on accompagne ce temps-là. Et en réalité, quand notre enfant se relève et vient nous trouver un peu sous n'importe quel prétexte ou jeter un œil à la porte du salon ou de notre chambre en même temps qu'il va remplir sa gourde, finalement, c'est une façon d'apaiser et de réguler ce petit stress ou ce stress qui peut être un peu plus fort selon les enfants, en tout cas voilà, de venir réguler ça, une façon de venir se rassurer, je ne suis pas tout seul, je suis tout seul dans ma chambre, mais je ne suis pas tout seul dans l'absolu, mes parents sont bien là, et du coup tout va bien. Et cette régulation, et c'est ce que je vais poser de base en fait dans cet épisode, et dans mon approche autour du sommeil, cette régulation, elle est saine en fait. Elle est saine et elle est même, je dirais, à valoriser dans le sens où on veut qu'en situation de stress ou de difficulté, nos enfants sachent qu'ils peuvent se tourner vers nous. Donc, ok, c'est super pénible quand à 21h ou même plus tard, c'est la 7e fois que notre enfant se réveille, enfin se relève en tout cas, mais c'est ici que se joue le fait que plus tard, quand notre enfant sera confronté à une situation qui l'angoisse ou qui lui crée de l'inquiétude ou qui le préoccupe, il viendra en tout cas plus facilement nous en parler, c'est pas la garantie absolue qu'il viendra nous en parler. Mais si déjà en fait dans des situations quotidiennes où notre enfant est confronté à des stress conscients ou inconscients, légers ou plus importants, on lui laisse cet espace-là de régulation de son stress en se tournant vers nous, ben ça ouvre la porte au fait que dans des situations où on aimerait qu'il puisse venir se tourner vers nous, il le fasse réellement. Et c'est important de comprendre que nos enfants, même assez grands, ne sont pas, enfin en fait que chez l'être humain, de manière générale, quand on est confronté à un stress, souvent en fait on va se réguler justement dans la co-régulation avec d'autres. Et en tant qu'adulte, même en tant qu'adulte en réalité, il y a des stress qu'on va savoir gérer tout seul, mais il y a aussi des stress plus importants qu'on va encore être dans un système de co-régulation, on va se tourner vers les personnes qui nous sont proches en leur disant bah voilà, en ce moment je traverse ça, ou c'est pas simple en ce moment, ou simplement passer un moment en fait avec les personnes qui nous sont proches pour réguler notre stress. C'est ce qui va nous aider à réguler notre stress. Et nos enfants qui sont encore moins en capacité de le faire de manière autonome, et en réalité c'est même ça en fait, de chercher cette co-régulation. C'est peut-être justement quelque chose qui nous manque beaucoup dans notre culture, dans notre société actuelle, de valoriser cette co-régulation. On est vraiment dans un système très indépendant où on veut pouvoir tout gérer en autonomie tout seul, ce qui peut amener à des situations où on se sent très isolé quand on est dans des situations de vulnérabilité. Et c'est, je trouve, au contraire quelque chose à valoriser chez nos enfants, de leur garder cette fonction saine, naturelle et physiologique de co-régulation et de la valoriser. Maintenant, évidemment, ce qu'on voudrait pouvoir faire, une fois qu'on a dit ça, c'est de justement répondre en fait à ce besoin naturel et à cette manière saine de réguler son stress, parce que on sait que on peut imaginer et on sait quand on se penche un peu sur le sujet que si on n'a pas cette possibilité de régulation, de co-régulation. En fait, si on ne peut pas se réguler de manière saine, entre guillemets, ben on va aller essayer de se réguler. Notre organisme va avoir besoin de réguler son stress d'une manière ou d'une autre, et ça va parfois être avec des moyens qui sont beaucoup moins sains, justement. Donc, on veut pouvoir répondre à ce besoin de notre enfant, une fois qu'on a posé cette base-là, mais on voudrait pouvoir y répondre de manière efficace, pour justement limiter les nombreux relevés de nos enfants, et en répondant à leurs besoins de réassurance et à cette co-régulation qui font appel à nous, retrouver nous nos soirées de parents. Et ici du coup, c'est pas une méthode pour que nos enfants ne se relèvent pas, c'est un changement de posture intérieure où on vient comprendre que plus on répond à leurs besoins de co-régulation, de faire baisser ce stress de l'isolement, plus on répond à ce besoin en profondeur et rapidement, moins ils vont se relever. Mais finalement, le but, c'est pas qu'ils se relèvent pas, ils vont le faire, c'est très probable qu'ils continuent de le faire, mais on veut essayer de limiter ces moments où ils se relèvent en répondant à leurs besoins. Je trouve aussi important de rappeler que auquel on peut difficilement faire abstraction. Les difficultés d'endormissement, c'est un sujet pour les enfants et aussi pour les adultes. Donc il y a sans doute quelque chose qui est assez systémique. C'est-à-dire que c'est pas nos enfants qui spécifiquement, individuellement, n'arrivent pas à s'endormir et c'est un problème. C'est plutôt sans doute nos conditions de vie occidentales, notre alimentation, comme je le disais tout à l'heure, les stimulations dans la journée, etc. Et peut-être aussi les attentes qu'on a autour de l'endormissement qui sont pas forcément adaptées à la réalité de commencer en fait de s'endormir en tant qu'être humain dans une société comme la nôtre en fait. Et ici ça peut être intéressant de venir se demander pourquoi l'endormissement est un problème. C'est quelque chose que j'aime bien faire quand on vient observer en fait une situation problématique, c'est de venir un petit peu se demander pourquoi c'est problématique finalement. Donc oui, c'est problématique si notre enfant se relève, par exemple, comme je disais, 7 fois jusqu'à 21h30, 22h. C'est un problème, on va pas nier ça. Mais qu'est-ce qui est un problème? Est-ce que c'est parce que mon enfant s'endort trop tard et qu'il a des difficultés à se lever le matin? Ou qu'il montre des signes de fatigue dans la journée? Et du coup, c'est un problème parce que ça veut dire qu'il ne dort pas assez et qu'il faudrait qu'il puisse dormir davantage. Est-ce que c'est un problème parce que mon enfant exprime qu'il a des difficultés ou qu'elle a des difficultés d'endormissement et que c'est un souci pour lui ou pour elle? Par exemple, un enfant qui viendrait nous dire « Je me sens, j'ai peur quand je vais me coucher, je me sens pas en sécurité, j'ai peur qu'il y ait, je sais pas, des gens sous mon lit ou j'ai peur qu'il y ait, qu'il m'arrive quelque chose dans ma chambre. » Donc là, c'est un problème pour notre enfant, en réalité. Ou est-ce que c'est un problème parce que moi, en tant que parent, je n'ai plus d'énergie et plus de disponibilité pour accompagner avec bienveillance mon enfant en fin de journée à cette heure-là? Et c'est aussi un problème qu'on va pas minorer. Moi, j'ai vraiment une approche où on veut être bienveillant envers nos enfants, mais aussi envers les parents. Et c'est hyper important, ça marche main dans la main pour moi. Donc, chacune de ces situations, là, j'ai pris trois problèmes qui me viennent en tête de manière assez rapide et évidente. Chacune de ces situations problématiques va pouvoir présenter une solution différente. Donc par exemple, pour un enfant qui s'endormirait trop tard et qui présenterait des signes de fatigue, soit le matin, soit au cours de la journée, on pourrait imaginer que une solution, ce serait de commencer la routine rituelle plus tôt. On va manger plus tôt, on va se coucher plus tôt, etc. Comme ça, peut-être que le temps d'endormissement va rester le même, mais que l'enfant va progressivement s'endormir un petit peu plus tôt. Si le problème c'est que l'enfant exprime des difficultés d'endormissement que lui ressent ou que elle ressent, on va trouver des pistes pour adoucir ce temps d'endormissement. Donc on peut clairement lui demander par exemple de quoi il ou elle aurait besoin, qu'est-ce qui l'aiderait. Et ici c'est intéressant d'observer que les enfants ont souvent des idées sur le sujet en réalité. Ils ont souvent des idées de choses qui pourraient les aider, de choses si on leur demande en fait qu'ils vont pouvoir adapter dans leur environnement par exemple, on va y revenir. Ou si la problématique c'est que moi je n'ai plus d'énergie en tant que parent, pour cette étape-là, bah c'est peut-être de se prendre des temps pour souffler avant ce qu'on appelle le tunnel du soir, ou de mieux répartir les tâches du soir avec mon compagnon ou ma compagne si c'est possible, m'enlever de la pression sur d'autres aspects de la soirée, comme par exemple la préparation du repas, ou voilà, peut-être d'autres choses que je vais pouvoir alléger pour être un petit peu plus disponible le soir pour cette étape-là. En fait, pour moi, l'enjeu de notre organisation du soir, l'enjeu de cette routine rituelle, c'est avant tout que chaque membre de la famille puisse passer un bon moment, ou en tout cas un meilleur moment, et du coup, nous, en tant que parents, y compris, en fait, et de passer de cette vision du tunnel du soir à quelque chose, un moment qui va être apaisant pour tous les membres de la famille. Et c'est ce qu'on va essayer de créer avec cette routine rituelle. Donc maintenant, qu'est-ce que j'entends par ce mot de routine rituelle? Si on regarde une routine, qu'est-ce que c'est finalement? C'est quelque chose de répétitif, quelque chose qu'on va refaire encore et encore et encore. Par exemple, si je me brosse les dents après le repas, bah, c'est quelque chose qui est routinier pour moi. Je sais que après le repas, je vais me brosser les dents. Et ce côté répétitif, ce côté qui est très prédéfini en fait, c'est quelque chose qui va rassurer notre enfant. Et quelque part qui va nous enlever aussi une forme de charge mentale, paradoxalement peut-être par rapport à ce qu'on peut imaginer, parce que si on sait que les choses ont un déroulé qui va être toujours le même finalement, il y a moins d'imprévisibles, il y a plus de choses qu'on va pouvoir anticiper, organiser facilement, et pour notre enfant, tout ce qui est prévisible est rassurant. Et ça va même donner un sentiment de contrôle à l'enfant, parce que il peut anticiper ce qui va se passer, d'autant plus s'il peut participer à élaborer cette routine. On va y revenir, et ça c'est vraiment important. Et puis, pourquoi je viens accoler comme ça le terme de rituel? C'est parce que un rituel, en tout cas dans ma conception des choses, c'est quelque chose qui nous connecte aux autres et à nous-mêmes. C'est un moment qui va nous connecter aux autres et à nous-mêmes. Et cette distinction, elle me paraît intéressante parce que comme on l'a vu, les difficultés à aller se coucher, quand on se relève tout le temps, quand nos enfants se relèvent tout le temps pour faire pipi, pour boire de l'eau, pour un petit bobo, etc. Bah, c'est lié finalement à une forme d'angoisse de séparation, comme je l'ai déjà explicité sans le nommer comme ça. Donc derrière cette angoisse de séparation, en fait c'est ce stress léger dont je parlais tout à l'heure, qu'on peut appeler aussi dans des termes un petit peu plus élaborés l'angoisse de séparation. Donc l'angoisse de séparation, c'est un phénomène qui est tout à fait normal jusqu'à un âge même avancé de nos enfants et qui témoigne d'un développement normal de nos enfants. Ils se sentent en sécurité auprès de nous et donc ils veulent être en notre présence tout simplement. En fait, ils recherchent notre contact parce qu'ils aiment être avec nous et qu'on les rassure, et d'autant plus quand ils se sentent avec ce stress de l'isolement dont on a déjà parlé. Donc ça revient à ce qu'on des notions qu'on aborde fréquemment dans la parentalité bienveillante et sur ce podcast du coup, c'est que on est leur figure d'attachement. En tant qu'être humain, on fonctionne tous et toutes avec ce qu'on appelle des figures d'attachement, donc c'est-à-dire des personnes dans notre entourage qui vont être des personnes dont on cherche la présence quand on vit une situation qui nous stresse. Par exemple, l'exemple que je donne tout le temps, si je crève la roue de ma voiture sur un trajet où je suis à 200 km de chez moi, je vais probablement appeler mon compagnon, même si je suis à 200 km de chez moi, alors qu'il peut pas réellement m'aider concrètement, mais le fait de l'entendre au téléphone, de lui raconter ce qui m'arrive, va m'aider parce que c'est ma figure d'attachement principale. Souvent, quand on est adulte, bah, c'est nos partenaires qui sont nos figures d'attachement principales. Jusqu'à l'adolescence, on est la figure d'attachement principale de nos enfants. À l'adolescence, les amis peuvent devenir des personnes qui vont aussi devenir des figures d'attachement, à qui on va se confier, auprès de qui on va aller vraiment co-réguler notre stress, toutes nos petites choses du quotidien. Mais c'est favorable, on va dire, c'est chouette si on reste aussi une figure d'attachement pour nos enfants. C'est justement ce qu'on veut essayer de faire pour, comme je disais, que plus tard nos enfants, face à des situations vraiment qui les inquiètent, qui sont des situations de stress qui nous aussi vont nous inquiéter, en réalité, bah, ils soient encore en mesure de se tourner vers nous, même s'ils ont développé d'autres figures d'attachement parmi des gens de leur âge, tout simplement. Donc pour revenir à l'endormissement, forcément, quand vient le soir, après l'agitation de la journée, que c'est le moment d'aller se coucher, nos enfants peuvent sentir l'envie de se rapprocher de nous, ou en tout cas de ne pas être séparés de nous. Et c'est là aussi qu'ils vont peut-être justement, si on leur en laisse l'espace, nous confier un petit peu leur tracas, leur questionnement de la journée en fait. Enfin, en tout cas, tout ce qui peut-être ils n'ont pas eu l'opportunité d'aller réfléchir dans la journée, sur lequel ils se sont pas forcément confiés dans la journée, bah c'est au moment d'aller se coucher, comme pour nous en fait, hein, que ça revient les préoccuper, les travailler, etc. Et donc eux, ils sont pas forcément en capacité de venir se confier en nous disant « Maman, tu sais, j'ai passé une journée un peu difficile, je me suis un peu chicanée avec mon ami, ou je me suis sentie en difficulté dans mon apprentissage de la trigonométrie ou de, je sais pas, ou de la conjugaison du verbe être. » Et ils vont plutôt venir se relever encore et encore pour aller faire pipi, pour aller boire, pour aller remplir la gourde, etc., etc. Parce qu'en fait, ils sont dans une forme de stress, encore une fois, et ils ont besoin de nous, de leur figure d'attachement, pour venir se co-réguler. Et c'est pour ça que on veut essayer de transformer le tunnel du soir en routine rituelle. Une routine qui va donner un sentiment de prédictibilité et de contrôle à l'enfant, et un aspect rituel avec des moments pour connecter ensemble, et que notre enfant puisse se reconnecter à lui-même, trouver en lui, apprendre à trouver en lui les ressources pour petit à petit réguler lui-même son stress quand la charge de stress est, on va dire, légère. Parce que c'est ça en fait qu'on veut pouvoir développer chez notre enfant. C'est offrir la capacité de réguler par lui-même son stress ou par elle-même son stress tant que ce stress est gérable, tant que ce stress est dans une moindre mesure, et savoir que en situation de stress plus important, ben il peut se tourner vers nous ou elle peut se tourner vers nous, et qu'on est là en soutien dans des situations qui peuvent être génératrices d'angoisse, de stress, de difficultés, etc. Et ce temps que je vais appeler plus rituel du coup, c'est ce temps justement de connexion, c'est les espaces de connexion qu'on va pouvoir créer entre le moment où notre enfant rentre de l'école ou de ses activités et le temps du coucher. Donc, on va voir comment on fait cette évolution de tunnel du soir en routine rituelle. D'abord, cette routine rituelle, c'est normal qu'elle évolue selon les périodes et selon les besoins des enfants. Et plus cette routine rituelle, elle va être faite sur mesure pour notre famille, moins elle va nous demander d'efforts. Et en fait, c'est ça tout le but, c'est que chaque étape puisse être un bon moment pour notre enfant, mais aussi pour nous. Et s'il y a plusieurs enfants à la maison, bah chacun peut avoir sa propre routine rituelle, ou en tout cas des éléments qui vont venir peut-être s'entrelacer différemment, s'articuler différemment, et surtout qui dans chaque élément va peut-être présenter des petites différences. Donc on va voir tout de suite le déroulé de la routine rituelle que vous allez pouvoir retrouver en poster pour vous l'approprier à télécharger, comme je l'ai déjà dit dans les notes de podcast sur mon site christellecardeur.com. Donc comment moi j'imagine les choses et comment je vais vous présenter les choses, vous allez voir que pour moi chaque chose a un sens. Donc je vais diviser ça un peu en trois parties. Donc il y a la partie où on est encore, si je peux dire, dans comme un peu une bulle où on est encore tourné vraiment vers l'extérieur. Donc c'est le temps du retour de l'école, du goûter, des jeux, des devoirs. Et ensuite de ça, il va y avoir le point de bascule quand on va se doucher ou se mettre en pyjama. Donc les étapes que vous allez pouvoir retrouver dans la routine rituelle, c'est je rentre de l'école, je prends mon goûter, je joue. Ici, dans l'idée de... Enfin, gardant en tête le côté stimulation de la journée, etc., c'est pas mal si nos enfants peuvent jouer dehors, si on a un environnement qui le permet, une organisation qui le permet, et bien sûr aussi le temps qui le permet, de mettre en place la possibilité pour nos enfants de jouer dehors, parce que dehors, ils vont justement beaucoup se réguler aussi avec les environnements, avec un environnement extérieur, avec les éléments de la nature, avec tout ça, se défouler aussi s'ils ont été beaucoup assis ou en intérieur, ça va leur permettre de libérer en fait les tensions accumulées en jouant dehors, en courant, etc. S'il y a des devoirs, ben ils vont pouvoir les faire aussi après avoir joué, après s'être défoulé, etc. Et puis ensuite, il y a ce que je vais appeler le point de bascule de la douche et du pyjama, puisque là, on va vraiment passer dans une bulle familiale. On sort de la bulle qui est encore un peu tournée vers l'extérieur, tournée vers les choses de la journée, pour basculer dans la bulle familiale. Et dans chacune de ces bulles, si je peux les appeler, on va essayer de mettre en place des petites soupapes de discussion. Par exemple, une soupape de discussion quand on prend le goûter. Une soupape de discussion quand nos enfants sont en train de jouer. Et c'est des petites choses où on peut venir saisir des petites opportunités d'entendre ce qu'ils nous partagent et de poser des questions en fait ouvertes sur comment ils ont vécu leur journée, qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est vraiment en étant présent avec eux dans ces temps-là et en étant disponible pour s'il y a eu un moment où ils ont envie d'ouvrir quelque chose. Souvent dans cette, en tout cas dans mon observation, dans cette première bulle de « on est encore tourné vers l'extérieur », souvent, ils vont pas beaucoup s'ouvrir sur ce qu'ils ont vécu, parce que, justement, ils sont encore tournés vers l'extérieur, dans l'agitation de la journée, dans cette bulle où on est encore dans l'effervescence de la journée, et pas trop en introspection, finalement, sur ce qu'ils ont pu vivre dans la journée. Et donc, on va passer à la bulle familiale, où on va prendre le repas, se brosser les dents, donc les gestes d'hygiène. Et ici, il y a une étape que je trouve hyper précieuse, qu'on a, je pense, pas trop tendance à faire, et c'est pour ça que j'ai envie de vous mettre un petit zoom dessus. C'est le fait, après de s'être brossé les dents et avant l'histoire du soir, de préparer l'environnement du sommeil. C'est-à-dire que on va proposer à notre enfant, et l'accompagner aussi, parce que souvent c'est pas quelque chose qu'ils ont très envie de faire, surtout au début, et c'est pas quelque chose qui est très enthousiasmant pour eux, mais ça va être par exemple de donner un petit coup de rangement à la chambre, et surtout d'amener toutes les choses dont on a besoin pour la nuit. C'est-à-dire que c'est dans ce moment-là qu'on va... Et on va vraiment créer un moment où on va préparer la gourde, où on va préparer une boîte de mouchoirs si on a besoin. Et c'est là aussi qu'on va pouvoir permettre à l'enfant de réfléchir à de quoi j'ai besoin pour mon environnement de sommeil. Par exemple, ça peut être d'avoir une petite brume d'oreiller avec une petite eau florale de fleurs d'oranger qui est apaisante et que l'enfant va pouvoir utiliser en spray sur son oreiller pour s'apaiser et qu'il puisse avoir à portée de main et prêt autour de son lit, sur sa table de chevet ou quelque chose comme ça. C'est de pouvoir avoir sa gourde, comme je l'ai déjà mentionné, peut-être vérifier qu'il a sa lampe de poche, s'il a une petite lampe de poche ou la veilleuse qui est prête. Voilà, c'est vraiment de prendre le temps avec lui, de voir si l'environnement du sommeil, il est prêt en fait, et de le préparer avec lui pour que ce ne soit pas quelque chose qui se fasse plus tard quand on est censé être couché en réalité. Et je trouve précieux de le faire avant l'histoire, avant les moments où on va justement être plus dans ces temps de connexion, de rituel de connexion. Et du coup, ça leur permet de se préparer à cet isolement finalement qui est pas facile pour eux en checkant que tout est ok dans l'environnement, mais bien avant, et ça les y prépare en fait. On va vérifier que le doudou est là. Pour les enfants qui ont un doudou, que ce soit pas justement au moment où on doit faire le bisou, dire au revoir, qu'on se rende compte qu'il n'y a pas le doudou et que ça génère un stress supplémentaire. Pour nous, ça paraît pas grand chose. Ou bien c'est un stress aussi en fait de chercher le doudou, est-ce qu'il est resté dans la voiture, est-ce qu'il a été oublié à la crèche ou à l'école. Donc tout ça génère du stress en fait pour nous aussi. Et on est moins disponible pour leur faire le bisou, etc. Donc de venir préparer l'environnement vraiment avant le coucher, c'est quelque chose qui va apaiser le temps du coucher parce qu'on prépare en amont et on va trouver les solutions en amont si la gourde a été égarée, etc. Et une fois que l'environnement du sommeil est prêt, qu'on voit que c'est bon, tous les éléments sont là, on va pouvoir passer à l'histoire du soir. Et là encore, dans toute cette bulle familiale, on va pouvoir essayer de trouver des petites soupapes de discussion. Peut-être que ça va être dans la transition à la douche ou au moment où on se met en pyjama. Peut-être que ça va être pendant le repas. Peut-être que ça va être entre la fin du brossage de dents et le moment où on prépare l'environnement. Peut-être que ça va être pendant qu'on prépare l'environnement que notre enfant va d'un coup nous dire « Ah oui, ma maîtresse m'a dit aujourd'hui, m'a raconté aujourd'hui une histoire qui m'a un peu fait peur, ou j'ai des questions sur tel sujet, tel truc. » Et ça vient en fait libérer ces inquiétudes, ces discussions, ces préoccupations du moment du coucher. Encore une fois, l'idée c'est que on arrive au moment du coucher avec déjà beaucoup de choses qui ont été mises en place avant pour que ce soit pas tout qui soit repoussé au moment du coucher. C'est-à-dire que si moi, en fait, je suis pas disponible quand mon enfant goûte parce que je suis en train de ranger les courses, si je suis pas disponible quand mon enfant met son pyjama en autonomie, par exemple, parce que je suis en train de préparer le repas, si je suis pas disponible pendant le repas parce que je suis en train de faire manger le plus jeune et que, du coup, je suis préoccupée ou dans les discussions avec mon compagnon, si je suis pas disponible quand il se brosse les dents parce que je suis concentrée sur le fait que il faut bien lui brosser les dents, bien mettre la bonne dose de dentifrice, frotter dans le bon sens, vérifier qu'il n'y a pas de caries, etc., et que je commence à être fatiguée. Si je suis pas disponible pendant l'histoire du soir parce que je veux que ça aille un peu vite et que etc., bah en fait, finalement, mon enfant, il lui reste plus que le moment où il se passe plus rien et où il est censé aller se coucher. Et c'est là où du coup, il va essayer de « Maman, j'ai quelque chose à te dire, mais je sais pas comment le dire parce que je suis pas en âge de dire que j'ai vécu une journée un peu difficile ou qu'il y a eu quelque chose qui m'a préoccupée dans quelque chose qu'a dit ma maîtresse et que j'ai pas bien compris, etc. » Donc on veut créer, encore une fois, ces soupapes de discussion à différents moments de cette routine rituelle pour libérer un petit peu le moment du coucher. Puis certains soirs, nos enfants vont pas les saisir, vont pas nous tendre des petits fils, nous tendre des petites perches, vont pas trop répondre à nos questions. C'est ok, c'est comme ça. Mais si nous déjà on a cette conscience-là, si on a déjà cette intention-là, quand ils nous partagent des petites bribes de leur quotidien, de pas repousser ça à plus tard finalement, parce que le plus tard, ce sera du coup au moment du coucher, c'est certain. Donc si on a cette possibilité de pas le repousser et d'essayer de laisser cet espace-là, souvent, parfois, ça prend pas forcément beaucoup de temps en plus. Hein. C'est juste que notre enfant a besoin de déposer quelque chose. Et si on peut accueillir ça au moment où il le présente, bah, c'est toujours ça de libérer quelque part pour le coucher. Et donc ça, c'était la bulle familiale. Repas, brossage de dents, préparer l'environnement, donc très important, et l'histoire du soir. On est en contact les uns avec les autres dans notre bulle familiale, on connecte ensemble. Et c'est ce temps de connexion les uns aux autres, de régulation les uns avec les autres, de co-régulation. et après on va basculer doucement, tranquillement, dans la bulle personnelle où on va aller se coucher. Donc on va donner un dernier petit point où on check l'environnement, on se met dans le lit. Et il va y avoir un temps où on va se connecter ensemble là très 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 fort avant de se séparer. Donc c'est ce que je vais appeler le temps de connexion ensemble. On peut rappeler à notre enfant qu'on sera toujours là pour elle ou pour lui, qu'on compte sur lui ou sur elle pour venir nous voir s'il a besoin de nous. Ça c'est très important parce que en vrai on aurait envie de lui dire tu te relèves pas, c'est fini, là maintenant c'est le temps des parents et puis les enfants restent dans leur lit. Quand ils sont un petit peu plus grands, quand ils sont petits, c'est pas forcément un souci pour nous qu'ils se relèvent, mais quand ils ont 6 ans, 7 ans, 8 ans, ils ont encore ce besoin-là de co-régulation, et nous on est un petit peu, voilà, on se dit un petit peu, bon maintenant ils sont grands, ils pourraient s'organiser pour pas se relever, etc. Mais en vrai ils ont besoin de ce temps de co-régulation, et moi je constate que souvent quand on leur rappelle, quand on les rassure, quand on leur dit vraiment « je compte sur toi pour venir me voir si tu as besoin de moi », ça vient leur... Ah, justement, les apaiser sur le fait que c'est bon, les parents sont là, c'est pas un stress de se relever, c'est ok si j'ai besoin de venir voir mes parents. Et souvent, en fait, ils se relèvent moins du coup. Et ils se relèvent vraiment pour le besoin, en nommant le besoin beaucoup plus rapidement et en trouvant moins de prétextes. Parce qu'en fait, quelque part, si ils ont pas la possibilité de se relever pour quelque chose qui les angoisse, dont ils auraient dû nous parler avant, mais il n'y avait pas l'espace avant, ben c'est normal qu'ils trouvent des prétextes. C'est normal qu'ils disent « ma gourde n'est pas prête, ma gourde n'est pas remplie, j'ai soif » ou « j'ai besoin de... j'ai pas de mouchoir » ou... En fait, c'est normal qu'ils trouvent des prétextes si l'environnement n'est pas prêt et qu'ils n'ont pas pu parler de ce qu'ils avaient, de ce dont ils avaient besoin de parler mais qu'ils n'arrivent pas forcément à nommer et que par ailleurs, on leur dit que c'est pas le moment pour avoir des grandes conversations maintenant. Donc en fait, ils sont un peu dans une situation intenable. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est compliqué. Et nous, on est stressés aussi parce qu'on est fatigués, qu'on aimerait bien qu'ils se couchent, qu'en plus ça nous angoisse un petit peu de savoir qu'ils sont un peu angoissés, parce qu'on perçoit qu'il y a une angoisse derrière, et nous ça nous angoisse aussi. Enfin bon bref, c'est un peu le cercle vicieux. Donc on essaye d'apaiser tout ça, en leur disant que c'est ok, et que s'ils ont un besoin, ils peuvent venir nous voir et nous en parler, qu'on compte sur eux pour qu'ils nous parlent s'ils ont besoin de, s'ils ont un besoin ou quelque chose qui va pas. Et en fait, souvent quand on fait ça, comme je le disais, ils se relèvent moins, et quand ils se relèvent, ils nous disent directement ce dont ils ont besoin. Enfin, plus facilement, parce qu'évidemment, encore une fois, un enfant de 6 ans n'est pas vraiment en mesure de dire tout de suite « je suis angoissée parce qu'à l'école j'ai entendu parler de ça et que ça m'empêche de dormir ». Il va le formuler différemment, évidemment. Mais il va le faire plus facilement et il va moins chercher de prétexte si on lui formule le fait que c'est ok de venir nous trouver pour ça. Une fois que on a fait ce temps de connexion ensemble, quelque chose que j'aime beaucoup faire aussi, ça c'est un petit tip que j'adore, c'est le petit rituel du doudou. C'est-à-dire que on va prendre le doudou de notre enfant s'il a un doudou, et on va faire semblant de lui, enfin on va pas faire semblant, on va faire comme si on parlait au doudou, enfin on va parler au doudou, dans l'oreille du doudou, en disant quelque chose comme, donc moi par exemple, si le doudou s'appelle, je sais pas, choucroute, je sais n'importe quoi, donc le doudou s'appelle choucroute, et on va lui dire, écoute choucroute, tu sais, je sais que si notre enfant s'appelle Georges, choucroute tu sais, je sais que Georges a eu une grosse journée aujourd'hui, il a beaucoup joué avec ses copains, il a beaucoup appris de choses, et on a passé une bonne soirée, on a lu telle histoire, et maintenant ça va être le temps pour lui de se coucher, et tu pourrais veiller sur lui, parce que c'est vraiment un enfant extraordinaire, et moi j'aimerais bien pouvoir veiller sur lui, mais je vais devoir aller me coucher aussi dans pas longtemps, du coup je te confie cette mission, etc. Et souvent les enfants adorent en fait qu'on fasse ça, et ils savent très bien qu'on fait semblant, et que c'est un jeu en fait, mais ça les valorise, ça les rassure, ça les apaise beaucoup, c'est un petit temps de connivence, si on leur fait un petit clin d'œil, qu'on fait un petit bisou au doudou, etc. Et ça peut vraiment aussi venir apaisé et quelque part court-circuiter un peu ce cercle vicieux du stress justement qui s'installe, parce qu'on est dans le jeu, mais on est dans le jeu et les enfants se régulent toujours avec le jeu, donc ça les aide beaucoup en fait de jouer, mais d'avoir un jeu un peu calme, un petit peu tranquille, et qui vient les valoriser, leur rappeler qu'on les aime, qu'on est là pour eux, etc. Donc ça c'est ce que j'appelle encore la connexion ensemble. Puis après on va pouvoir proposer, puis ça peut se faire en 2 minutes, hein, ça, c'est pas obligé de prendre un quart d'heure, forcément. Parfois, ça va prendre un peu plus longtemps quand notre enfant en a besoin, mais ça peut être aussi hyper rapide. Et puis, il va y avoir le temps de connexion à lui-même, où on va l'inviter à se mettre dans sa bulle de sommeil, finalement. Et c'est important, à mon sens, qu'on invite l'enfant à le faire avant qu'on lui dise au revoir, finalement. Pour que, de lui-même, pendant qu'on est là, on l'aide, finalement, à s'intérioriser, à se connecter, par exemple, aux belles choses de la journée, à son lieu ressource. Donc, le lieu ressource, ça peut être tout simple, hein, c'est de lui dire le soir, tu peux imaginer pour t'endormir un endroit où tu peux faire tout ce que tu aimes, ou tout ce que tu aimes faire, et disponible à portée de main, quoi que ce soit. Pareil, là, on peut mettre un petit peu de jeu aussi. Si notre enfant aime bien les bonbons, par exemple, on peut lui dire, c'est l'endroit où tu peux manger tous les bonbons de la terre, ou c'est l'endroit où, si notre enfant aime bien faire du vélo, c'est l'endroit où tu peux faire du vélo pendant des heures, dans la montagne ou dans une forêt, etc. Et l'inviter, si vous avez en plus déjà pratiqué avec lui des méditations, il en existe des super pour les enfants, des méditations justement autour du lieu ressource ou autour de l'endormissement, vous pouvez l'aider à se reconnecter à ça, tout simplement en le nommant en fait, en nommant qu'il a cette ressource-là, en lui disant « tu peux te mettre dans ta bulle de sommeil, tu peux penser aux belles choses de la journée, tu peux visualiser ta journée de demain ou penser aux belles choses qui vont se passer demain, etc. etc. » Ça va être important que vous puissiez tester des choses. Si tout ça c'est des ressources que vous n'avez pas, je vous encourage à aller tester des choses et à voir ce qui fonctionne pour votre enfant. Ça va pas tout fonctionner pour votre enfant. Peut-être que par exemple, de se projeter dans la journée de demain, c'est quelque chose qui au contraire va être un peu source d'inquiétude si dans son quotidien, il y a des petites choses qui justement sont un petit peu apportent un peu de friction là. Si en ce moment c'est pas ouf à l'école, bah peut-être ça va au contraire l'inquiéter un petit peu, etc. Par contre, vous allez peut-être que le lieu ressource va super bien fonctionner pour votre enfant à cette étape-là. Donc ça nous demande d'un petit peu explorer et d'un petit peu essayer de trouver l'outil qui va fonctionner pour notre enfant. Et ça peut prendre un petit peu de temps, mais une fois que vous avez trouvé quelque chose qui fonctionne bien, vous allez sentir que votre enfant adhère en fait. Adhère, c'est vraiment le terme, adhère à ça et va s'intérioriser. C'est pas de magique et d'un coup il va plus se relever, etc. Encore une fois, l'idée c'est pas que l'enfant ne se relève pas, c'est que on réponde à son besoin de réassurance le plus efficacement possible, et c'est ça qui va faire qu'il va moins se relever, qu'il va se relever peut-être qu'une fois au lieu de 7 par exemple. Et puis enfin, y a le temps du bisou et du bonne nuit, la séparation. Et avec cette routine rituelle, ce que je vous propose, c'est que justement le temps de l'intériorité se fasse avant la séparation. Et on n'a plus qu'à faire un petit bisou. On a connecté avant, hein. On a peut-être fait plein de bisous avant. Ensuite de ça, on les laisse se mettre dans leur bulle, on les accompagne pour qu'ils se mettent dans leur bulle. Et nous, on sort de la pièce. Et chaque fois qu'il va y avoir un lever, on va accompagner l'enfant, le recoucher et lui rappeler qu'il peut se mettre dans sa bulle, qu'on est là. Donc on reprend en fait à chaque fois cette bulle de individuelle du coucher. Donc on vérifie que l'environnement est ok, on se remet dans le lit, on connecte ensemble, on l'invite à se connecter à lui-même et on ressort de la pièce. Bien sûr que si notre enfant, là je suis pas en train de vous donner une méthode façon 5, 10, 15, hein, si vous avez envie de dormir avec votre enfant parce que il est trop angoissé, que c'est un trop difficile pour lui de s'endormir seul ce soir, bah c'est ok, moi j'ai rien à y redire. C'est si vous avez envie de l'accompagner dans un endormissement autonome et que il est dans cette situation du stress léger, j'ai envie de dire encore, c'est pas une grosse angoisse, c'est un stress, c'est ce besoin de co-régulation qu'on va venir valider, qu'on va venir valoriser même, et rappeler qu'on n'est pas loin, qu'on est tout près, que s'il a besoin, il peut venir nous voir ou elle peut venir nous voir, et qu'on est là pour elle ou pour lui, qui peut aussi se mettre dans sa bulle intérieure, et on ressort de la pièce tranquillement. Donc encore une fois, en tout cas pour conclure tranquillement, cette routine rituelle, comme on voit, elle se déroule à partir du retour de l'enfant. Et de manière super progressive, on va finalement, et c'est, je trouve, précieux d'avoir justement cette intention en tête, d'avoir cette compréhension de ces différentes bulles, en fait, de la bulle extérieure, qu'on ramène un peu à la maison avec le retour à l'école, les devoirs, jouer dehors, etc. La bulle familiale et enfin la bulle individuelle, en fait, la bulle personnelle de l'enfant. Et on veut l'accompagner hyper progressivement dans ce temps-là en intercalant des petites soupapes où l'enfant va pouvoir piouf exprimer ce qu'il a vécu, qu'est-ce qui le préoccupe, c'est quoi les joies aussi qu'il a pu vivre, c'est quoi ce qui l'a excité dans la journée, c'est quoi ce qui l'a enthousiasmé, etc. Et voilà. Et ça va être aussi hyper important que vous trouviez du plaisir dans chacune de ces étapes. Par exemple, lire des histoires que vous aimez vraiment. Parfois, on se force à lire des trucs qui nous gonflent, quoi. Moi, c'est quelque chose que maintenant, je ne fais plus avec mes enfants. Bien sûr, s'ils ont un nouveau livre qu'ils adorent et que moi, j'aime pas spécialement, je vais leur lire un petit temps, mais peut-être pas justement le soir avant de se coucher, quand moi je suis fatiguée et que ça me coûte en fait. Peut-être plutôt le mercredi ou dans le week-end quand je suis en forme et que je peux faire l'effort d'une certaine manière. Mais le soir avant de se coucher, on va plutôt prendre des histoires qu'on aime tous les deux, tous les trois, ou qui nous permettent vraiment de connecter. Ça peut être aussi quand on prépare l'environnement. Entre le brossage de dents et l'histoire du soir, si ça colle avec ce qui est faisable chez vous, que nous aussi on puisse préparer un environnement pour notre enfant qui nous plaît aussi. C'est-à-dire, moi par exemple, j'adore quand justement je prépare cette petite brume d'oreiller à l'un de mes fils qui adore, et moi j'adore lui faire aussi. Pour un autre de mes enfants, ça va être autre chose que j'aime bien lui préparer parce que je me dis, ah c'est cool, je me sens une bonne mère en fait. Ça me valorise dans ce moment-là. J'aime bien préparer leur environnement, j'aime bien que leur chambre soit un petit peu rangée. Je dis pas, on va faire un grand rangement chaque soir. Mais que sentir que mes enfants s'endorment pas dans un bazar incommensurable, que les draps soient propres, enfin, vous voyez ce genre de choses où on se sent valorisé dans nos compétences de parents. On se sent que, à l'image de ce dont je parlais dans le dernier épisode de podcast, qui est le numéro 128 du coup, je crois, qu'on se sent être une bonne mère. Et en fait, ça vient aussi baisser notre niveau de stress quelque part. On est fatigué, mais on est moins stressé parce qu'on se sent dans une posture positive pour notre enfant. Ça peut être d'écouter de la musique en même temps que on se brosse les dents, par exemple. Nous, c'est ce qu'on faisait beaucoup à un moment. On écoutait la chanson du roi Louis dans le livre de la jungle, Être un homme comme vous, et on se brossait les dents sur ce rythme-là, et c'était des super moments, en fait. On pourrait le refaire, d'ailleurs. Voilà, c'est de trouver, en fait, des choses qui, pour nous, font que ces moments-là qui sont, on va pas se mentir, parfois rébarbatifs en fin de journée, nos enfants font parfois de la résistance parce qu'eux aussi sont fatigués, enfin, il y a plein de choses qui se jouent, mais plus on va mettre des petites choses qui vont rendre la situation un peu plus sympa, un petit peu plus abordable pour tout le monde, accessible pour tout le monde facilement, plus on va se faciliter les choses, finalement. Et puis, de s'accorder des temps de pause dans tout ce temps-là. Par exemple, peut-être prendre un temps de pause après le repas, avant le brossage de dents, se prendre nous aussi 5 minutes où on souffle, on va, sur la terrasse avec notre bouquin, ou faire autre chose en fait, déconnecter un peu du tunnel du soir pour revenir à la routine rituelle. Et puis bien sûr, autant que faire se peut, de partager ces étapes au sein du couple quand on est deux pour accompagner notre enfant. Par exemple, il y en a un qui peut s'occuper du brossage de dents et l'autre qui peut préparer l'environnement ensuite, ce qui permet aux parents de souffler en fait, justement. Un qui va peut-être faire brossage de dents, préparer l'environnement, et l'autre qui va faire l'histoire du soir. Et comme ça, si on alterne, on se répartit les choses et on est moins stressé en fait, on est moins fatigué et du coup plus disponible pour notre enfant. Voilà tout ce que j'avais envie de vous dire dans cet épisode de la routine rituelle. Vous rappelez aussi que vous faites probablement de votre mieux. Si vous êtes en train d'écouter cet épisode et que vous êtes arrivé au bout de l'épisode, c'est probablement que vous êtes vraiment dans une démarche positive auprès de votre enfant, où vous avez envie de l'accompagner du mieux que vous pouvez, et c'est déjà beaucoup en réalité. Donc soyez aussi patiente, patient avec vous-même, dans ces moments où vous êtes probablement fatigué le soir, où c'est probablement challengeant pour vous, et de vous accompagner vous aussi en fait dans cette étape-là, dans cette ce moment de la journée où parfois on n'a qu'une envie, c'est d'aller se coucher, honnêtement, et c'est ok, et on fait de notre mieux. Et je pense qu'on peut aussi le formuler à nos enfants, quel que soit leur âge, avec peut-être pas les mêmes mots et pas les mêmes explications, mais nos enfants peuvent entendre que certains soirs on a moins de patience parce qu'on a eu une grosse journée nous aussi, et que certains soirs on est moins disponible, ou qu'on est malade, ou qu'on est voilà, qu'on est préoccupé, qu'on est fatigué, et ça peut les aider à comprendre que c'est pas contre eux en fait, qu'on n'est pas dans une rupture de lien avec eux, simplement qu'on a nos propres défis et que on est préoccupé par d'autres choses. Et ça, c'est rassurant pour l'enfant d'entendre de la part de son parent: ce soir je suis un petit peu moins disponible parce que j'ai eu une journée difficile au travail, ou parce que je me suis disputée avec ma meilleure copine, s'ils connaissent le nom de vos amis ou quoi, ou que je suis inquiète pour tel ou tel truc. Alors toujours allons-y doucement dans le partage de nos préoccupations, évidemment, mais voilà, le fait d'entendre, c'est pas que j'ai pas envie de te lire une histoire, c'est que je suis fatiguée, c'est que je me sens un petit peu malade, c'est que X chose, et c'est peut-être plutôt ton papa ou ta maman qui va te lire l'histoire ce soir, ou ce soir, est-ce que tu peux checker ton environnement, voilà, préparer ta chambre ou ton lit, selon comment on va le formuler, préparer ton lit toi-même, et puis juste je viens vérifier, on vérifie ensemble. Et ça autonomise aussi nos enfants, surtout s'ils ont l'habitude de le faire avec nous parfois, enfin le reste du temps quoi. Voilà, en tout cas, comme conclusion, je veux absolument vous dire de prendre soin de vous, d'essayer d'arriver dans ce moment de routine rituelle avec le moins de fatigue possible. Je sais que c'est pas possible d'arriver sans aucune fatigue, mais plus vous prenez soin de vous, plus vous vous donnez vous aussi des petites soupapes de discussion, de repos, de connexion avec les personnes qui vous co-régulent. Parce que c'est ça aussi en fait, c'est est-ce que vous, vous pratiquez votre propre co-régulation ou votre propre régulation de votre stress tout au long de la journée, ou est-ce que vous aussi vous attendez finalement le dernier moment de la journée, et finalement que voilà, ce moment là à 20h quand les enfants sont couchés, pour ouf, enfin ça y est, je peux relâcher. Ben en fait, c'est ce qu'on veut éviter pour nos enfants, c'est ce qu'on veut éviter pour nous, parce que c'est ce qui crée les pires situations où on finit par s'énerver sur nos enfants, par leur reprocher de se relever, alors qu'ils font quelque chose qui est normal, qui est sain, et qu'on veut encourager, parce qu'on veut que quand nos enfants soient stressés, ils sachent qu'ils peuvent se tourner vers nous. De même que quand nous on est stressés, on a besoin de se tourner vers les personnes qui sont nos figures d'attachement, et qui nous aident à nous réguler, à réguler notre stress, à faire descendre ce stress, pour revenir à notre état le plus neutre possible de calme, de joie, de sérénité, et de ok, il y a des défis, mais on a les ressources, on a la capacité de les surmonter, de les affronter, de les solutionner. Voilà, j'espère que cet épisode aura été nourrissant pour vous, qui vous aura donné des pistes, de l'inspiration. N'oubliez pas de télécharger votre double poster de routine rituelle, un pour vous, un pour votre enfant. Ça se fait sur le lien qui est dans les notes de podcast et sur Instagram, sur mon compte dédié à la parentalité Christelle Carter. Et voilà, je vous souhaite une très belle semaine, et je vous dis à lundi prochain pour un prochain épisode. Merci pour votre écoute et à très vite.